divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Marc Poumadère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste du risque et depuis plus de 20 ans, dans divers cadres, de l'ENS Cachan aux mines de Paris Tech, vous étudiez le rapport individuel et collectif au risque et à la sécurité, à la technologie, à l'environnement, à la santé. Vous participez à des expertises pour des organismes nationaux ou internationaux, les ministères, l'OMS, l'AFSET actuellement ANSES, Euratom ou à des projets de recherche européens. Vous étiez venu il y a 5 ans à l'antenne de l'Union rationaliste nous parler de l'expertise et du risque. Aujourd'hui, et après l'accident de l'Airbus A320 de la Germanwings, j'aimerais que nous analysions en rationaliste notre rapport à la technologie, aux événements marquants, menaçants, aux catastrophes, et notre rapport à la peur et à la façon dont on peut communiquer sur ce type d'accident. Je suis en effet très sensible à ces nouvelles formes d'information spectaculaire que les radios et les chaînes de télévision produisent, avec un retour sur l'événement ou sur l'accident en boucle, une information quasi continue et répétitive sur les mêmes données, entretenant un climat catastrophique qui interdit la prise de distance par rapport à ce qui se passe. Donc depuis le 11 septembre 2001 et l'attentat terroriste sur les tours du World Trade Center, nous nous sommes du moins accoutumés, sinon faits, à ce type d'information. Qu'en pensez-vous, Marc Poumadère ?
Alors, si l'on veut penser un peu ce type de situation qui se rattache à des catastrophes, sans doute qu'il faut essayer de les différencier. Si on reprend avec l'attentat du World Trade Center, c'est donc une attaque terroriste qui repose effectivement sur l'impact émotionnel collectif, qui cherche à atteindre le plus grand nombre par l'intermédiaire des réactions de type émotionnel. Car, à la différence des puissances occidentales, les terroristes n'ont pas la capacité de détruire massivement, par les armes, leurs cibles. Donc, si l'on considère que le but recherché, c'est de déclencher des réactions émotionnelles, puis des décisions comme de partir faire la guerre en Irak, comme l'ont fait les Américains, on se dit qu'effectivement, c'est indispensable d'ajouter un minimum de réflexion pour analyser ce qui se passe, dans la mesure où là, il y a une stratégie claire et nette qui vise à déclencher ces réactions émotionnelles collectives.
Mais ce qui se passe, c'est que d'une certaine façon, la presse occidentale, peut-être la presse mondiale, joue le jeu de la terreur.
D'une certaine façon, oui. C'est la force de la stratégie terroriste et qu'elle est efficace. C'est une stratégie efficace qui nous blesse, qui nous atteint dans nos zones sensibles en touchant des cibles symboliques. Et effectivement, les réponses peuvent aller dans le sens de cette stratégie terroriste, par exemple, encore une fois, en faisant la guerre, en renforçant aussi les mesures policières à l'intérieur de nos propres pays, en diminuant les libertés démocratiques, donc en quelque sorte en introduisant des éléments chaotiques dans les démocraties telles que nous les connaissons.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que nous analysons. Non seulement, sans doute, le rapport à la presse et aux médias et à la médiatisation de ce type d'événement. Nous allons revenir sur peut-être la couverture médiatique de ce qui s'est passé autour de l'accident d'avion de la Germanwings, accident qui me semble difficile à qualifier, tant à cause de la nature même de cet accident, dont la terminologie, le concept est difficile à dire. Et puis, je pense, difficile à penser aussi au niveau des effets fantasmatiques des téléspectateurs que nous sommes, des auditeurs de radio que nous sommes. Comment analyser, je ne sais pas comment dire, ce fait divers dramatique ou cet événement ?
Alors, bon, un accident d'avion, c'est un événement très rare, donc qui retient évidemment l'attention, qui mobilise donc les médias. Ce que l'on peut remarquer, c'est la course de vitesse, quand même, qui s'attache à la description, à l'analyse de l'événement. Donc, les premiers commentaires sont très hypothétiques. Chacun y va de son hypothèse avant d'avoir accès aux faits réels de l'explication de l'accident. Alors, on pourrait imaginer, effectivement, que l'on attende d'avoir des résultats plus fiables au lieu d'avoir... Mais en même temps, bon, peut-être que le métier des journalistes évolue et qu'ils essayent de répondre à ce qu'ils imaginent être des attentes de leur audience, ou bien la pression aussi de la compétition entre les médias. Alors, ce qui atteint parfois des résultats inattendus, comme il y a quelque temps, vous en souvenez, l'annonce du décès de Martin Bouygues. Alors, ce n'était pas le cas, donc on lui souhaite une longue, heureuse vie, mais qu'on imagine sa surprise. Donc, on voit qu'on atteint des limites avec une espèce de course à l'information. Mais tant que les inconvénients n'auront pas été davantage analysés, il n'est pas certain qu'un arbitrage intervienne pour instaurer un rapport à l'information différent.
Il y a quand même certaines chaînes de télé, que je ne vais pas nommer, mais qui couvrent l'information d'une certaine façon, avec une réitération, un passage en boucle de l'événement. Pour les événements très traumatisants, ça a des effets sidérants au niveau des auditeurs ou des spectateurs.
Oui, certainement, mais en même temps, les journalistes qui font ce type de travail ils vous diront que ça répond à une attente. Alors, on peut dire que ça répond à une pulsion morbide d'être de façon répétitive confronté à ce type de contenu. Mm-hmm. Ceci dit, les journalistes peuvent vous répondre aussi que c'est pas leur rôle de modifier l'état de la société.
Ouais. En même temps, déontologiquement, on doit réfléchir à ce qu'on transmet. Et je voulais vous interroger, par exemple, dans le cas des accidents et des accidents d'avion, sur le statut et le rapport aux images. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça ? Évidemment, on sait qu'il y a des corps de victimes. Et il y a un lockout, je ne sais pas si on dit ça comme ça, sur les images.
Oui, alors, y a eu effectivement des approches déontologiques qui se sont appliquées à la gestion des accidents d'avion depuis les années 80. Donc, qui sont les personnels qui interviennent sur le site de l'accident? Auparavant, c'était parfois des personnels de la compagnie d'aviation qui n'avaient pas de formation particulière, donc ils se retrouvaient effectivement au milieu des corps. Il y a eu un cas aussi en France qui a été emblématique, c'est en 1974, l'accident du DC-10 dans la forêt d'Ermenonville, qui avait fait un nombre important de victimes, et où la presse, magazine, c'était par image, je crois, avait diffusé des photos très, très, très précises sur l'impact de l'accident dans la forêt, donc les arbres couchés, cassés, et des corps démembrés. Et il y avait une réaction, une discussion qui impliquait bien sûr les journalistes et d'autres acteurs pour dire que là, une limite avait été atteinte. Donc il y a eu une espèce de consensus qui s'est formé pour ne plus montrer des images de corps.
Alors, les corps ont disparu. Je crois qu'il y avait eu aussi des effets sur, dans la presse, les relations au suicide et la montée. Est-ce que vous pouvez évoquer cette affaire ?
Alors, un autre problème, effectivement, avec les informations, c'est l'effet parfois de mimétisme que ça peut induire. Il y a eu effectivement un cas en Autriche, avec le métro à Vienne, où des cas de suicide étaient mentionnés par la presse. Il y avait une espèce d'effet d'entraînement. Donc, le nombre de suicides augmentait au fur et à mesure
qu'on médiatisait.
Et donc là, il y a eu effectivement un accord avec la presse et donc les services municipaux pour
arrêté de couvrir ce type d'événement,
voilà.
Le taux de suicide a diminué.
Immédiatement.
Ce qui veut dire quand même que nous pouvons réfléchir à ce que nous faisons déontologiquement dans la couverture des événements, parce que cette couverture a des impacts.
Tout à fait, mais encore une fois, c'est à partir de quel moment il y a une réflexion qui atteint un niveau collectif, où il y a suffisamment de discussions pour qu'on considère qu'on a dépassé les bornes. Mais quels sont les processus par lesquels on arrive à dire qu'on a dépassé les bornes? C'est difficile de le décréter. Je pense qu'il y a un moment où on dit que tel type de reportage...
Ne doit plus avoir lieu, voilà. D'accord.
Et donc, effectivement, il y a des tensions entre le voyeurisme et la retenue et le respect des morts et de leur image. Donc, c'est une tension.
Est-ce qu'on pourrait repérer la même tension et la même difficulté dans le rapport des émotions liées aux catastrophes et aux décisions prises à l'issue de ces catastrophes? Je peux évidemment penser là aux règlements ou aux réglementations qui vont être changées, qui ont déjà été changées suite à l'accident de la Germanwings à propos de l'accès au cockpit.
L'accès qui avait été rendu plus difficile dans les cockpits, c'était une décision qui a été prise après les attentats aux États-Unis. Alors, à chaque fois qu'on introduit un changement dans un système complexe, peut-être qu'on dira deux mots des systèmes technologiques complexes, il faut bien réfléchir aux conséquences du changement. Parce que peut-être qu'on répond à un problème, par exemple, une porte blindée va empêcher les terroristes de s'emparer du cockpit, mais une porte blindée va aussi empêcher le pilote de revenir dans le cockpit si le copilote ne le laisse pas rentrer. Alors, est-ce que c'était une bonne décision ou pas de mettre des portes blindées? J'en sais rien, mais ça demanderait sans doute à être évalué avec soin. Et la décision actuelle qui a été prise par certaines compagnies de dire, bon, puisqu'on a ce problème, portes blindées, le pilote ne peut plus revenir, il y en a un qui reste tout seul, il faudra qu'il y ait toujours deux personnes. Alors, l'autre personne, ce sera forcément un membre du personnel navigant, steward, stewardess, donc ce ne sera pas quelqu'un qui aura les mêmes qualifications qu'un pilote, il n'y aura pas le même filtrage non plus, donc ça introduit de nouveau
une incertitude.
Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne décision? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit être soigneusement
pensé. Alors, on peut aussi penser, comme ça, dans l'émotion, il y a eu après AZF.
AZF, donc oui, 2001, l'accident, l'explosion à Toulouse. Une loi a été mise en place très rapidement pour rajouter de la concertation aux comités locaux d'information, c'est-à-dire qui concerne l'information des populations qui vivent à proximité de sites industriels dangereux, classés Céveso. Donc il y a une classification pour que les personnes sachent à quel risque elles sont exposées, quelle conduite à tenir en cas d'accident. Et cette nouvelle loi qui a ajouté la concertation au dispositif, bon, je ne pense pas qu'elle est, d'ailleurs, je ne sais pas où elle en est maintenant, mais qu'elle a été très bien appliquée parce qu'elle a été décidée très rapidement dans le prolongement de cet accident, alors que, bon, encore une fois, il aurait fallu prendre plus de temps pour la penser.
Voilà. Précisément, en fait, ce qu'un penseur du risque peut-être dire, c'est que dans le rapport de l'émotion et du risque, il est peut-être prudent d'attendre, parce que, précisément, l'attention médiatique et publique pour un risque, n'est ni prédictive ni indicative de dangerosité réelle.
Exactement. C'est un point très important. Bon, chacun de nous a une vie émotionnelle et individuellement, on mélange allègrement les émotions et les décisions rationnelles. Donc, ça pose des problèmes, on se débrouille. Mais au niveau collectif, quand on prend des décisions, pour gérer le risque notamment, autant s'assurer que ce sont les meilleurs possibles. Et là, effectivement, il vaut mieux s'appuyer sur des évaluations rigoureuses, donc qui prennent du temps et qui ne donnent pas non plus une réponse immédiate et directe à l'émotion collective. L'avantage, entre guillemets, de la loi sur les clics après AZF à Toulouse, c'était de faire comme si on pouvait mettre un peu d'onguent sur la souffrance qu'il y avait.
Les blessures.
Et la réaction qui avait suivi. Même chose après Xintia en 2010, donc les personnes qui étaient mortes par submersion marine, de façon un peu précipitée, un zonage avait été décrété pour dire voilà, que les zones dans lesquelles ces personnes habitaient étaient dangereuses. Donc, une certaine, ça rajoutait à leur traumatisme. Mais ça donnait l'impression, au niveau national en tout cas, que quelque chose avait été décidé. Alors, c'est vrai que pour les décideurs politiques, la pire des situations, c'est de donner l'impression qu'ils ne prennent aucune décision.
Qu'ils ne font rien.
Voilà, qu'ils ne font rien. Donc c'est un dilemme auquel il faut penser, et sans doute que parfois ils sont pris dans l'emportement pour faire quelque chose, montrer qu'ils font.
Ils agissent alors qu'il serait peut-être plus prudent de réfléchir. C'est sur ces derniers mots, invitant à la réflexion et à la rationalité, que nous allons clore cette émission sur le risque. Marc Poumader, je vous remercie.
Merci.
Je remercie Johan Vincent et Claire Levasseur qui ont rendu possible cette émission. Je rappelle que dans le cahier rationaliste numéro 604, vous pouvez trouver la dernière émission de Marc Poumader sur l'analyse des risques et le rôle de l'expertise. Le numéro 184 de Raison présente reproduisait les actes du colloque 2012 sur le principe de précaution. Et le colloque 2015 de l'Union rationaliste traitera de la démarche scientifique face aux certitudes. Je vous dis au mois prochain.